Chapitre 47. Lucie tenta de se débattre, mais la pression se relâcha quasi instantanément. Et Charcot se recula dans un coin, tremblant de froid. Il avait le regard d'un fou. Ses joues, son nez, étaient balafrés de dizaines de coupures. Ses cheveux trempés étaient plaqués sur son crâne. Lucie tendit les mains vers lui.
« Tout va bien, Franck. C'est moi. »
Pascal arriva juste après. Franck demeura immobile encore quelques secondes, puis fondit sur sa femme et la serra contre lui.
« J'ai eu tellement peur, » murmura-t-elle dans le creux de son épaule. « Tu n'as rien ?»«
Ça va. Seulement des égratignures. »
Lucie avait envie de pleurer de joie, mais elle parvint à contrôler ses émotions. Elle chassa avec une délicatesse maternelle les infimes bouts de verre qui avaient meurtri le visage de son mari. Pascal préféra leur laisser un peu d'intimité et se mit à explorer les lieux avec sa torche. Rapidement, il constata que l'unique fenêtre avait explosé en 1000 morceaux. Au milieu de la pièce, une longue table en bois, surplombée par un projecteur halogène relié à une batterie. Il s'avança, mais pas trop, afin de préserver d'éventuels indices, puis observa d'où il se tenait. À gauche, renversé au sol, brisé, un gros appareil électronique, style moniteur d'hôpital, branché à une sorte de casque bardé d'électrodes. Des seringues, des flacons, des tablettes en inox. Plus en retrait, il distingua une platine, également raccordée à la batterie. Un disque 45 tours traînait dans un coin. Un objet incongru dans un endroit pareil.
Qu'est-ce qui a merdé, Franck ?
Charcot se détacha de Lucie et péniblement leur expliqua. Le sac qu'on lui avait enfoncé sur la tête pour l'emmener à l'entrée des catacombes, sa progression dans les galeries affublée d'un masque de Dali, les indications qu'il avait guidées jusqu'à la faille, le mot de passe usagé Pazuzu qui avait donné l'alerte.
Ce sont eux qui ont tué Emma Doty.
Comment tu le sais ?
Ils me l'ont dit avant que je perde connaissance. Je n'ai jamais vu leur visage. Ils étaient dissimulés derrière une espèce de face de squelette.
Combien ils étaient ?
Dans les catacombes, 2. Ils m'ont drogué et enfermé dans le coffre d'une voiture. J'ai repris conscience quasi à notre arrivée ici. Ils m'avaient menotté et mis un bandeau sur les yeux qu'ils m'ont enlevé une fois dans la cabane. Où est-ce qu'on est ?
À une quinzaine de bornes de Nemours.
Franck ôta son pull glacé et gorgé d'eau. Une flaque s'était formée à ses pieds. Il éternua.
Un troisième mec était déjà sur place. Il portait le même masque que ses acolytes et le même pull. Ça m'a interpellé parce qu'il y avait un sigle dessus. T'as un papier et un crayon ?
Pascal fouilla dans les poches de son blouson, il en sortit une liste de courses et un stylo, et les lui tendit. Charcot dessina le symbole.
Ça ressemblait à ça. Un V imbriqué dans un V retourné. Jamais vu,
lâcha le procédurier après avoir étudié le motif.
Selon toi, il s'agirait d'un groupuscule ou une connerie de ce genre ?
J'en sais rien, possible.
Celui qui nous attendait a demandé qu'on retire mon blouson et a commencé à donner des coups de scalpel dedans. Il gueulait sur les types parce qu'ils ne m'avaient pas fouillé à fond. Ces crétins avaient juste trouvé une dague que j'avais achetée dans les catacombes pour me défendre au cas où, et n'avaient pas été plus loin. Alors que le fou furieux, lui, a découvert le micro et la balise GPS. À ce moment-là, une fraction de seconde, ils ont été moins attentifs.
Il pointa l'ouverture face à lui.
Je n'ai pas réfléchi. J'ai renversé la table vers eux, j'ai foncé droit devant à travers la vitre. Quand je suis tombé de l'autre côté, j'ai compris qu'il fallait que je me relève très vite. Puis j'ai couru, et j'ai plongé dans les marais.
Lucie était tétanisée par son récit. 1000 fois il aurait pu mourir, mais il était toujours là, bien vivant.
Je me suis planqué dans les roseaux. Ils m'ont cherché avec des lampes et se sont mis à paniquer à cause du GPS. 5 minutes avant votre arrivée, ils ont fini par se tirer en laissant tout sur place. Vous n'avez pas croisé de voiture, rien.
Pascal secoua la tête. Il enfila des gants et, prenant garde de ne pas marcher dans les liquides au sol, s'accroupit au niveau de l'appareil relié au casque bourré d'électrodes.
Un électroencéphalogramme. Putain, on est où là ? Qu'est-ce que foutent ces types avec tous ces produits et du matériel pour mesurer l'activité du cerveau ?
Charcot se déplaça jusqu'au 45 tours qu'il ramassa et observa. aucune indication. Il redressa la platine renversée. Il songea alors à un chirurgien fou qui opérait des cobayes en écoutant sa musique préférée.
« Les catacombes ne sont qu'un lieu de rendez-vous, » expliqua-t-il. « Un moyen pour eux d'assurer leurs arrières et de tout contrôler. Mais c'est peut-être ça la faille. Une expérience qui se déroulerait dans ce genre d'endroit, abandonné. On installe vite fait une salle clandestine, avec du matos facilement transportable. On fait venir des candidats harponnés sur le Darknet, qui n'ont aucune possibilité d'identifier qui que ce soit. » Et on leur fourre des saloperies dans les veines, peut-être pour provoquer une sorte d'EMI qui fait ensuite apparaître les diables. C'est le seul scénario que j'imagine. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction.
Il plaça le disque sur la platine et déclencha la lecture en actionnant la tête. Les premières notes envahirent l'espace. Le rythme à trois temps d'une caisse claire, les attaques légères d'une flûte, les mesures qui s'enchaînent à la clarinette... Pas besoin d'être un expert pour reconnaître le boléro de Ravel. Les flics restèrent pétrifiés, comme hypnotisés. La situation était tellement surréaliste. Ils se trouvaient au milieu des marais, où œuvrait visiblement une bande de tarés sur cet air incroyable, si doux dans son démarrage, si enveloppant. Charcot grelotta. Soudain, il se rappela les propos du père François.
Nebraza écoutait en boucle cette musique lorsque les démons le harcelaient, lâcha-t-il d'une voix tremblotante.
Exactement ça? S'étonna Lucie. Le boléro de Ravel?
Franck acquiesça et éternua de nouveau. Pascal ôta son blouson et en couvrit les épaules de son chef.
Tu vas crever de froid. Tu dois aller te reposer. Avec Lucie, vous allez rentrer. Et je serai d'avis que tu fasses un petit tour chez le médecin demain. Ça va, je n'ai rien. Même si on t'avait amputé d'une jambe, tu dirais que t'as rien. Mais t'as traversé une vitre à la Belmondo, je te rappelle.
Charcot manipula la platine et un silence bienvenu revint.
Ils étaient là, à portée de main. On doit attraper ces types. On doit faire une descente dans le bar et coffrer tous ceux qui sont impliqués. T'as identifié l'entrée des catacombes? Tu pourrais y retourner? Malheureusement, je crois pas. On m'a baladé pendant au moins 10 minutes. À un moment, j'ai eu l'impression qu'on sortait. En fait, je ne suis même pas capable d'affirmer si elle se situait dans le bar ou dans un bâtiment à proximité.
Ce « on », c'est un employé du bar?
Franck voyait où Pascal voulait en venir. Même si, de toute évidence, le territoire du néant était le point d'accès vers toutes les déviances souterraines, ils n'avaient personne en particulier dans leur collimateur, hormis le moustachu, inconnu au bataillon. Tous ceux qu'ils interrogeraient n'iraient être au courant de quoi que ce soit.
« Ne t'inquiète pas, on convoquera tout le monde et on posera des questions, » fit Pascal. « Mais avant, on ratisse cette cabane. Je vais appeler Ligie. On aura des empreintes, de l'ADN, et la toxico nous dira tout ce qu'il y a à savoir sur le contenu de ces seringues. Je compte rester ici en attendant, histoire d'être prudent. Bref, autant que vous rentriez, puisque je n'aurai ta déposition que demain. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver. »
Franck ne se fit pas prier. Pascal avait raison. Il lui rendit son blouson et lui serra la main chaleureusement pour le remercier. Puis le couple disparut dans la végétation. Deux survivants qui, ce soir-là, et chacun à leur façon, avaient côtoyé l'enfer.